Radio Canut, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All you little boys of a comedy appearance. You fell over, you fellows get cleaned like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarchy, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. What you do about nothing, what you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things
will die.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce Canut Info, nous sommes le mercredi 28 novembre 2018, il est 19h passé de 5 minutes, nous sommes en retard, et voici le fil de ce jour.
Ce soir à Marseille, une lutte pour des logements décents.
Ensuite on parlera écologie, et quand l'écologie n'est plus populaire, la fermeté du gouvernement fond comme la neige sous les gaz à effet de serre.
Et puis, ça sera le moment de notre rubrique. Il faut que ça se sache avec ce soir des brèves de frontières, des nouvelles du bateau le Nivin et des histoires de gens qui préfèrent crever plutôt que d'être ramenés en Libye.
Et ensuite, on aura des nouvelles de quoi ? Eh ben, des nouvelles de la campagne BDS pour
boycott, désinvestissement, sanctions.
Je fais toujours des hauts et des bas. Tiens, le mois dernier, je bouffais des nouilles pour m'en sortir et demain, des femmes rempliront mes poches avec des diamants. Aujourd'hui, je suis l'idole de tout le monde et demain, ce sera moins que rien.
Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage.
Et vous venez de découvrir nos nouvelles brèves incises.
Et donc, pour commencer, ça va être une brève interespèce qui nous permet de rêver un peu plutôt que de parler du Brésil uniquement en nommant l'humain Bolsonaro. Donc c'est 200 millions de monticules de terre d'environ 2,5 mètres de haut qui ont été découverts sur une étendue de 230 000 km² dans le nord-est du Brésil. Ils ont été bâtis, tous ces monticules, par des termites. Il s'agit de la plus grande structure construite par une seule espèce d'insecte jamais découverte à ce jour. Donc des chercheurs, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer, qui l'ont découverte et qui ont publié une étude le 19 novembre. Donc au total, les termites auraient déplacé 10 km cubes de terre, donc l'équivalent de 4000 pyramides de Gizeh réparties sur la superficie de la Grande-Bretagne ou la moitié de celle de la France métropolitaine. Donc ça a été accompli par les Syntherme dirus, une espèce de termite dont la taille ne dépasse pas 1,3 cm. Donc cet impressionnant habitat est longtemps resté en paix, car dissimulé par la végétation de cette région semi-aride. Mais les récents effets de la déforestation humaine vont certainement les voir disparaître au profit du pognon et de l'agriculture intensive. Ah merde, oui, je devais rester vous faire rêver. Alors, comme je vais vous faire rêver, on peut imaginer que ces millions de termites ont caché sous ces incroyables monticules des systèmes de défense contre la bêtise humaine. Et à Noailles, donc le 5 novembre dernier, comme vous le savez, s'effondrait un immeuble. Nous en avons déjà parlé ces dernières semaines, mais quelles sont les répercussions sur les habitantes de Marseille? Donc différentes réunions de quartier sont organisées depuis plusieurs semaines. Le collectif du 5 novembre s'est mis en place pour demander des conditions décentes de relogement pour que les morts soient reconnus, et pour dénoncer les évacuations de logements ainsi que les expulsions locatives qui se sont intensifiées depuis. Donc effectivement, beaucoup d'arrêtés de péril ont été mis en place sur des immeubles du centre-ville, mais également dans différents quartiers, dont les quartiers nord. Et c'est actuellement 1500 personnes qui ont été relogées à durée indéterminée dans des hôtels plus ou moins miteux. Et les expulsions locatives qui sont courantes en cette période hivernale se sont, cet automne 2018, multipliées. En effet, Gaudin, le maire de la ville et ses administrés profitent de la situation pour en mettre à la rue grand nombre de personnes et, disons-le, beaucoup de personnes précaires, sans leur proposer de réelles solutions de relogement. Donc, ce qui est dénoncé depuis un moment, dont on a parlé là à Marseille, la politique du pourrissement du bâti social, arrive malheureusement à son apogée, puisque, en gros, la ville, du moins les dirigeants, profitent de la situation de l'effondrement d'un immeuble pour poser des arrêtés de péril à plein d'endroits et pour... pour compliquer la vie de bon nombre de personnes.
C'est ça, on aurait pu croire que devant le tollé national, ils auraient pu se tenir un petit peu à carreau, mais en fait, ils profitent de la situation pour continuer encore leur saloperie, quoi.
Donc les principales inquiétudes du collectif du 5 novembre sont notamment l'absence dans certains cas d'attestation pour prouver les évacuations, un temps d'attente trop long pour la prise des arrêtés de péril permettant de lancer des démarches auprès des assurances, le caractère jugé aléatoire des prises en charge à l'hôtel et la difficulté pour accéder à un relogement adapté.
Aujourd'hui, il y a une mamie qui a refusé de sortir de son appartement, qui s'est enfermée et qui a dit qu'elle ne sortirait pas tant qu'elle n'aurait pas vu l'arrêté de péril. Et en fait, jusqu'à ce soir, visiblement, personne n'a été en mesure de lui montrer un arrêté de péril, alors que son immeuble était en train d'être évacué.
Et donc, pour les personnes qui débarquent dans ce Canu Info, depuis des années, nous parlons d'expulsion locative, c'est ce que je disais avant. Et donc, en période hivernale, les personnes... et même tout le temps qui ne payent plus leur loyer peuvent être expulsés. Et donc là, ça, à Marseille, ça ne fait que amplifier le phénomène. Ça ne fait pas que justement, au contraire, ça aurait pu s'arrêter pour trouver une amélioration des logements. Ça montre cette logique d'embourgeoisement de la ville de Marseille où ils chassent facilement les pauvres puisque les arrêtés de péril à la clé, c'est un vrai miracle pour des politiques de droite. Et donc revenons à la lutte. Il y a deux semaines, deux marches avaient été organisées, la marche blanche et la marche de la colère, qui avaient réuni 12 000 personnes. Et sur cette marche de la colère, un lourd dispositif policier, une répression inhabituelle s'était abattue. 12 personnes ont été blessées et 4 personnes ont été jugées et une incarcérée pour 4 mois ferme à la prison des Bonnes-Mètres. Donc c'est pour les personnes à qui j'ai demandé, c'est effectivement pas commun ce genre de répression pour des manifs à Marseille. Et donc, en plus des assemblées qu'ils font régulièrement, le collectif du 5 novembre Noailles en colère appelle la population de Marseille à une grande marche pour un logement digne pour toutes et tous ce samedi prochain, la samedi 1er décembre à 15h, depuis Notre-Dame-du-Mont jusqu'au cours Julien. Alors, je vais lire leur appel. Nous devons continuer à marteler nos exigences pour un habitat et des écoles dignes, à battre le pavé pour que les responsables du drame de la rue d'Aubagne soient condamnés et que cesse l'incurie de la mairie. Il est urgent que l'état de droit soit rétabli pour les plus de 1500 délogés, qu'ils soient mieux informés et considérés par les pouvoirs publics, que des arrêtés de péril imminents soient tous rendus publics et que des concertations avec les citoyennes soient initiées afin de remettre à plat les priorités de logement et d'urbanisme. Alors que la municipalité et l'État sont en train de créer et entretenir une peur organisée en faisant main basse sur la ville par le biais de nombreux délogements, soyons solidaires et tenons à mettre bas à la fabrique du monstre. Pardon. Donc, cette lutte a également besoin de thunes. Vous pouvez retrouver toutes les informations. Parce que pourquoi il y a besoin de thunes, c'est étant donné qu'il y a pas mal de personnes qui sont relogées. Certes, c'est l'État qui paye les... les places d'hôtel, mais il y a plein de gens qui ont besoin de sous pour vivre de fête.
D'autant plus qu'un certain nombre ont été expulsés tellement vite que pour l'instant ils n'ont pas pu récupérer les affaires qui étaient dans leurs appartements. C'est-à-dire que des gens qui étaient là depuis des années, et puis si un autre immeuble ailleurs dans la ville s'était pas effondré, ils y seraient sans doute encore pour des années. On leur a dit maintenant dehors tout de suite, et pas du tout sous forme de t'embarques tes meubles, quoi.
Et puis quand même, je trouve, pour contextualiser ce truc de loger les gens en hôtel, faut quand même bien s'imaginer que souvent c'est des gens qui sont dans une chambre assez exiguë, si c'est une famille avec du coup avec leurs enfants, que c'est dans des conditions, enfin je veux dire, faut pas s'imaginer les hôtels de luxe quoi, en général. Et du coup ça coûte plein de pognon, parce qu'en fait dans l'immense majorité du temps c'est pas possible de se faire à manger dans une chambre d'hôtel. Du coup les familles doivent se faire à bouffe, doivent soit aller dans des restaurants, des kebabs, ou font des trucs comme ça quoi.
Et donc pour retrouver plus d'infos, il y a le Facebook du collectif 5 novembre Noailles en colère. Faut que vous tapiez ça pour le trouver sur Facebook, malheureusement. Mais voilà, il y a plein de vidéos des manifs, des interviews, leur communiqué de presse pour rester informé, l'appel à la manif du 1er décembre. Et pour faire écho et pour finir, il y a eu ce samedi dernier là une manif par rapport à la lutte de la plaine, justement pour l'embourgeoisement du quartier. Ces luttes se répondre, même si c'est pas exactement les mêmes gens qui luttent avec les mêmes revendications. Je pense qu'ils sont assez en cœur pour critiquer les politiques vraiment dures de Godin et des administrés. Et voilà.
Mesdames, messieurs et les autres, la suite.
Alors maintenant, on va parler d'écologie et de notre gouvernement. Macron, notre président, comme d'ailleurs le président précédent et le gouvernement socialiste avant lui, il sait être inflexible. Il sait être inflexible, par exemple, quand il s'agit des lois de régression sociale, quand il s'agit du droit du travail ou de n'importe quelle autre saloperie qu'il met en route. Mais quand il s'agit de prendre deux ou trois mesurettes écolo, et quand par ailleurs c'est l'écologie qui devient impopulaire, par contre Macron, comme d'ailleurs le gouvernement socialiste avant lui, est tout à fait capable de faire des concessions, voire de renoncer plus ou moins complètement aux mesurettes dont il est question. Alors, avant-hier lundi, le projet de loi d'orientation sur les mobilités a été présenté en Conseil des ministres. Et dedans, on avait annoncé une paire de mesures, pas des trucs bien révolutionnaires, hein, mais enfin qui allaient plus ou moins dans le sens de limiter un peu les gaz d'échappement. Mais alors, quand le projet a été finalement présenté, hop, ces mesures, lundi, a été présenté dans le contexte qu'on sait, ces mesures avaient disparu. Alors, il paraît que c'était pas vraiment le bon moment. Alors de quoi il s'agissait exactement ? D'une part des péages urbains. Les péages urbains, c'était l'idée de faire payer les bagnoles qui rentraient dans les grandes villes. Alors bien sûr, c'était de toute façon une mesure pour le coup celle-là qui était quand même assez injuste, puisque les gens qui habitaient en dehors des villes, mais qui avaient affaire à l'intérieur quotidiennement, ou même pas quotidiennement, mais en tout cas auraient dû payer à chaque fois qu'ils rentraient. Les gens par contre qui habitaient à l'intérieur de la ville, eux, ils pouvaient utiliser leur bagnole autant qu'ils voulaient, pour sortir de chez eux, pour aller au supermarché, pour faire 200 mètres et après faire 7 km en tournant pour essayer de se garer. Ceux-là, ils n'auraient pas lâché un centime dans l'histoire. Mais enfin, même injuste, ça aurait toujours fait un petit peu moins de bagnole. Allez-vous, c'est toujours ça qui se fera pas, ce truc-là est abandonné. L'autre mesure qui, alors paraît-il, n'a pas été abandonnée, mais repoussée, c'est la mesure de la vignette poids lourd. Alors, ça, c'était l'idée de faire casquer un peu les transporteurs, faire en sorte peut-être que le transport routier devienne plus cher, et donc comparativement plus cher peut-être par rapport au train. Donc si ça se trouve, il y aurait des marchandises qui auraient un peu plus pris le train. Peut-être même, allez savoir, que pour des questions de coût, on aurait parfois préféré faire un peu moins bouger les marchandises, et plutôt que de consommer en France des fraises qui poussaient en Espagne, et en Espagne des fraises qui poussaient en France, il y aurait eu des sortes de petits arrangements pour que les marchandises voyagent un peu moins. Ça sera pas pour tout de suite. Alors vous vous souvenez peut-être en 2016 cette histoire de écotaxe. C'était déjà la même idée. À l'époque, c'était Ségolène Royal qui avait porté le projet, et puis c'était aussi Ségolène Royal qui l'avait annulé au premier froncement de sourcils des camionneurs et surtout de leur patron. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Alors, quand les salariés sont dans la rue pour défendre le droit du travail, là, c'est fermeté absolue. Quand c'est les petits patrons de merde qui gueulent contre les taxes, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Bon, pendant ce temps, les rapports sur le climat se suivent et finalement se ressemblent. Alors le dernier, celui du programme environnement de l'ONU, a été publié hier.
Que des bonnes nouvelles.
Que des bonnes nouvelles, bien sûr, que des bonnes nouvelles. Les actions menées dans le monde ne permettent pas actuellement de limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Ces 2 degrés, c'était l'objectif qui avait été fixé par tous les États, tous ceux qui étaient signataires de l'accord de Paris, c'était en 2016, au moment de la COP21. Et donc, pour le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est la limite à ne surtout absolument pas dépasser, au risque, disent-ils, de changements irréversibles pour la planète, au risque, disent-ils toujours, en fait, de voir l'humanité s'éteindre. C'est quand même bien de ça qu'on parle. Les émissions de gaz à effet de serre ont été stabilisées pendant 3 ans, en 2014, 2015, 2016. Mais finalement, en 2017, paf, elles ont recommencé à grimper. 53,5 gigatonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire plus que jamais. En 2018, ça devrait être encore pire, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le scénario de ce programme environnemental de l'ONU est plus sombre que l'an dernier aussi, parce que, alors écoutez ça, parce que les dernières recherches montrent qu'il ne faudra pas compter sur un développement vaste et rapide des technologies d'absorption du CO2. Alors vous, est-ce qu'on comprend bien ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire surtout sur la manière dont réfléchissent les gens qui prennent des décisions. Ça veut dire qu'ils réfléchissent en se disant « Ouais, c'est vrai que si on pouvait émettre un peu moins de carbone, ça serait pas mal. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que certainement, on va trouver un moyen de réabsorber le carbone qu'on émet en plus. Hein, et puis voilà. » Et puis, sauf que là, ils se rendent compte qu'en fait, tiens, on ne le trouve pas le moyen, c'est con. Hein. Mais en fait, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent comme ça. Ils réfléchissent d'abord en se disant, on fait des conneries, mais on trouvera bien un moyen technologique de les réparer. Puis bon, en fait, on ne le trouve pas. C'est dommage. Alors, autant dire que les 2 degrés de réchauffement, qui sont donc vraiment une sorte de limite entre la grosse catastrophe et la gigantesque catastrophe, ces 2 degrés, il y a quand même vraiment de moins en moins de chances qu'on y arrive. Enfin, c'est vraiment... ça fait 2 ans que ça avait été fixé, et puis là, tout montre qu'on est en train de tout péter les limites, quoi. Alors oui, ça chauffe. Ça veut dire des sécheresses par ici, des inondations par là. Ça veut dire que des îles qui sont habitées vont juste être submergées. Ça veut dire que des virus vont apparaître. Ça veut dire que des réfugiés climatiques dans un monde de plus en plus xénophobe. Voilà, c'est les ceux qui triplent le chaos en mode sanglant. Les prochaines années, ça va être une grosse rigolade.
Quelle sorte d'oiseau êtes-vous ?
Je suis un moineau, elle c'est une colombe.
Non, j'ai dit. Quelle sorte d'oiseau êtes-vous ?
Je suis un corbeau.
Mais il n'y a pas que le réchauffement. Il y a aussi toutes les joyeusetés liées au nucléaire. Alors, 2 grosses séries de joyeusetés quand on parle du nucléaire, hein, c'est d'un côté les accidents qui peuvent rayer d'un coup de grosses régions de la carte, avec des centrales toutes pourries comme il y en a un peu partout et en particulier en France, et d'un autre côté les déchets, ceux qui s'accumulent, qui resteront dangereux pendant des durées géologiques, et dont personne ne sait vraiment quoi faire de malin. Pour l'instant, il y a l'idée de les enterrer à Bure, mais bon, il suffit que la Terre bouge un peu, et la Terre bouge tout le temps, pour que tout... Enfin bon. Donc, Macron a dévoilé hier la fameuse...
Moi, j'ai entendu... Pardon, mais sur ce truc de Bure, j'ai aussi entendu un type là qui est un peu genre un espèce de scientifique qui travaille sur comment recycler les trucs et qui dit en fait c'est juste débile d'un point de vue scientifique et même pas écologique. C'est qu'en fait, possiblement, contrairement à ce que tu dis, c'est possible qu'à un moment, dans peut-être 1 siècle ou 2 siècles, on trouve le moyen technologique ou scientifique de réduire ces espèces de déchets à rien. sauf en fait de les enterrer. Et que le projet là, c'est en fait c'est de les enterrer et pas de pouvoir les rechercher à un autre moment si effectivement le sol il se fissure, s'ils sentent que ça.
Ça dépend
c'est pas
des moments. Théoriquement, c'est de pouvoir les rechercher pendant 100 ans après les avoir enterrés. Théoriquement.
Hein. Ah bah alors c'est peut-être que lui il se basait sur un truc qui serait peut-être au-delà d'un siècle. En tout cas, il le rendait possible. Et il disait en fait si à un moment on y arrive, et ben juste ça sera pas possible. Et ces trucs là, bah ils seront juste enfouis en dessous. Pour des milliers d'années.
Jusqu'à ce qu'on ait forcément complètement oublié où ils étaient et qu'il y avait un truc dangereux à cet endroit. Mais alors Macron a dévoilé hier la fameuse PPE, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un truc dont on parlait, pour laquelle il devait prendre des décisions, puis finalement il n'avait pas trop osé, et puis finalement il a Bon bref, finalement hier il a dit où on était. Alors c'est pas encore tout n'est pas encore complètement précis, mais en gros il y a quand même pour le coup de la décision qui a été prise. Bon bah là encore, c'est des perspectives lumineuses qu'il a dessinées, lumineuses comme une grosse explosion quoi. Alors, il a confirmé le report à 2035 de l'objectif de réduction de la part du nucléaire à 50% du mix électrique. C'est-à-dire que dans toute l'électricité produite en France, en 2035, il y en aura seulement 50% qui sera produite par le nucléaire, au lieu de 70% maintenant. La loi de transition énergétique avait fixé cet objectif à 2025, mais bon, c'est pas grave, elle sera modifiée. Hein. La loi sera modifiée, donc il n'y a plus de soucis. Ça va être fait dans les semaines à venir. Comme ça, on oublie direct l'idée de 2025, une bonne fois pour toutes. François Drugy nous a rassuré là-dessus. Donc, d'ici à 2035, 14 très vieux réacteurs devraient être mis à l'arrêt. Les deux plus vieux réacteurs, ceux de la centrale nucléaire de Fessenheim, devraient être débranchés d'ici à l'été 2020.
En fait, ce truc, Fessenheim, ça commence un peu à devenir une escroquerie.
Ah non, mais...
Parce qu'au bout d'un moment, ils vont la fermer, mais on va se dire, mais en fait, on va pas vous remercier de l'avoir fermée, quoi. Je veux dire, c'est juste scandaleux de ne pas l'avoir fermée depuis toutes ces années, quoi.
C'est ça. Mais là, Fessenheim, on en est aussi à un point où... On espère que, je veux dire, 2020, ça semble encore, je veux dire, d'ici là, ils n'arrêtent pas de mettre du scotch un peu partout parce que tout part en couille, quoi. Bon, en tout cas, aucune autre fermeture pendant le quinquennat. Donc, de toute façon, après, Macron sera plus là, alors il n'est plus vraiment responsable de ce qu'il prévoit maintenant pour qu'il se passe. Ensuite, deux autres réacteurs seront arrêtés si les décisions qu'il prend maintenant ne sont pas changées par son successeur. Deux autres réacteurs seront arrêtés en 2027-2028. Deux autres encore, peut-être, pas trop rapidement quand même, en 2025-2026, donc dans 8 ans. Mais ça quand même à condition que la sécurité d'approvisionnement soit assurée et si nos voisins européens accélèrent leur transition énergétique en développant les énergies renouvelables. C'est-à-dire peut-être qu'on en fermera quand même, mais ou peut-être pas. Les autres fermetures devraient de toute façon débuter à partir de 2029. Bref, c'est pas pour tout de suite. Et alors, pour décider lesquels fermer, parce que là, on a parlé de 14 très très vieux réacteurs, mais il y a plus que ça de très très vieux réacteurs. Et donc, EDF est chargé d'établir la liste des réacteurs de 900 MW les plus anciens qu'il décidera de fermer, tout ça réparti dans 7 vieilles centrales. Bon, par contre, le président de la République a bien complètement exclu la fermeture d'un site nucléaire dans son intégralité. Deux points, ouvrez les guillemets, là c'est Macron qui parle. Fermer des réacteurs n'est pas renoncer au nucléaire. Je n'ai pas été élu sur une sortie du nucléaire, mais sur une réduction de sa part à 50% du mix électrique. Oui, en fait, il a été élu avec des promesses de campagne. Alors, mon petit bonhomme, si on parle de tes promesses de campagne, les 50%, c'était en 2025, c'était pas en 2035. Donc, de toute façon, tes promesses de campagne, tu ferais mieux de mouler là-dessus. Après, il n'a pas hésité à parler du nucléaire comme d'une énergie décarbonée et à bas coût. Vous allez voir, on va revenir dessus, on va rigoler. Vous verrez comment on rigole, quoi. Et de juger que l'essor des énergies renouvelables n'est pas lié à la fermeture des réacteurs et qu'il est faux de dire que le nucléaire pourrait être remplacé par les énergies renouvelables puisque les énergies renouvelables sont intermittentes. En gros, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie solaire. Bon, alors là, les gens qui s'y connaissent un petit peu, qui étudient un peu le machin, s'étranglent. Hein. Alors Greenpeace, par exemple, qui étudie le truc d'un peu près. Greenpeace qui nous dit, en repoussant l'échéance pour réduire la part du nucléaire à 50% dans le mix électrique en 2035 seulement, en refusant de fermer dès ce quinquennat des réacteurs à part ceux de Fessenheim et en repoussant les premières fermetures à 2025, la PPE acte en creux la prolongation de très nombreux réacteurs au-delà de 40, voire au-delà de 50 ans. Les réacteurs qui avaient été construits pour durer 30 ans. C'est aussi occulter la question de la faisabilité technique et économique d'un tel programme de prolongation qui coûtera au minimum 100 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Ce n'est pas Greenpeace qui a fait le calcul, c'est la Cour des comptes. À un moment où EDF est déjà lourdement endetté. Qu'est-ce qu'il disait Macron, énergie décarbonée à bas coût ? C'est bien de ça qu'il parlait. 100 milliards d'euros juste pour prolonger les réacteurs qui tombent en ruine. Greenpeace continue, c'est faire fi de l'augmentation du risque pour les populations liées au vieillissement des réacteurs et aussi de la production de gros volumes de déchets nucléaires hautement radioactifs dont le stockage pose déjà un problème. Et oui, et puis tiens, Macron ne s'arrête pas là, si on doit fermer des vieilles centrales qui tombent en ruine, bah, c'est une bonne raison pour penser à la suite. Je demande, nous dit-il, à EDF de travailler à l'élaboration d'un programme de nouveau nucléaire en prenant des engagements fermes sur le prix pour qu'il soit plus compétitif. Alors bien sûr, les engagements fermes sur le prix, hein. Tout doit être prêt en 2021. Donc les propositions d'EDF doivent être prêtes en 2021 pour que le choix qui sera proposé aux Français puisse être un choix transparent et éclairé. Alors pour rappel, même si on l'a déjà dit des centaines de fois, la construction de l'EPR de Flamanville, qui est en cours en ce moment, en est à un retard de 7 ans et à un dérapage de coût de 7 milliards d'euros. C'est-à-dire que le coût a été multiplié par 3, au moins. Par ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre dans sa PPE ? Le soutien au développement des énergies renouvelables. Ah, bah ça par contre, il va soutenir, et là il va lâcher de la thune, vous allez voir. Jusqu'à maintenant, il dépense 5 milliards par an pour soutenir les énergies renouvelables. Après, il en dépensera 7 à 8 milliards d'euros. Monsieur est grand seigneur. Bon, bien sûr, on vient de parler de l'histoire des 100 milliards, non pas 5 ou 7 ou 8, mais 100 milliards pour maintenir les centrales nucléaires en route. Après, on a encore une histoire de fermeture de 4 centrales à charbon qui sont en activité, donc qui devraient être fermées d'ici 2022. La fin de la vente de véhicules neufs émettant des gaz à effet de serre, ça d'ici 2040. Bon, doucement le matin, pas trop vite le soir. On parle bien ici d'arrêter de vendre des véhicules neufs. Hein. Et ça, on en parle pour dans plus de 20 ans. Des véhicules qui... décidément, c'est les ceux qui kiffent tellement les gaz d'échappement, peuvent pas trop se plaindre sur ce coup-là. Ensuite, la mise en circulation d'un parc de 4,8 millions de véhicules électriques d'ici 2028. Bon, de toute façon, cela, même l'ADEME, qui est vraiment l'agence gouvernementale sur les maîtrises de l'énergie, considère que les véhicules électriques, c'est quand même pas ce qui se fait de plus écolo. Bon, ben voilà, il faut bien avouer que... Alors, de toute façon, côté production d'électricité, c'est effectivement... Il n'y a pas de vraiment très bonne solution. La solution, c'est quand même plutôt de réfléchir à comment utiliser moins d'élec. Et ça, c'est con, c'est le truc qui est complètement absent du plan. Alors que je veux dire que c'est un truc qui n'est pas moi qui ai l'idée d'en parler comme ça. Hein. C'est juste que dans toutes les discussions sur la production d'énergie, la question revient tout le temps de comment avoir moins besoin de produire de l'énergie. Bon, bah là, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour le coup, il n'y a que dalle. Alors, en particulier, un des leviers pour réduire rapidement la consommation énergétique, ça aurait été d'accélérer le plan de rénovation des 27 millions de logements mal isolés en France. 27 millions de logements, c'est quand même une grosse partie des logements qui existent en France. Parmi lesquels, il y en a 7,5 millions qui sont considérés comme étant de véritables passoires énergétiques. Mais alors, pour le coup, la PPE se contente surtout de rappeler qu'il y a déjà des aides qui sont annoncées dans le cadre du plan climat, donc un vieux truc. Ils disent « Oh bah bon, ça, c'est déjà traité ». Comme un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique, qui sera bientôt transformé en prime. À noter que l'enveloppe du crédit d'impôt a été de toute façon divisée par deux dans le projet de loi de finances 2019. Donc c'est-à-dire que non seulement ils annoncent rien de neuf, mais en réalité ils enlèvent des trucs qui étaient déjà prévus. Par ailleurs, la programmation pluriannuelle de l'énergie ne prévoit pas du tout de réintégrer le remplacement des fenêtres dans ce dispositif qui avait été un moment, et puis finalement, non, on ne fait pas ça. Bon, bref, énergie, gaz d'échappement, nucléaire et compagnie, rien ne change.
Quoi ?
Et on va s'écouter une petite musique, mais qui n'est pas du tout celle-là. Mais non, tu t'es complètement trompé, ça revient.
Emigrada, emigraniada, we come and rapper every time.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine à expulser.
Alors, pour précision, la musique qu'on s'est écoutée, c'était Gogol Bordello, avec le titre Immigraniada, qui a comme refrain, qui parle d'immigration, et qui a comme refrain, nous reviendrons toujours plus forts, plus nombreux, plus décidés. Voilà, alors c'était un peu une manière de commencer ce Faut que ça sache dans un truc un peu, offensif et joyeux. Ce sera pas le cas du reste, hein, je vous le préviens, comme d'habitude. On en avait parlé la semaine dernière, le 20 novembre, une centaine. Moi, je dis une centaine, mais c'est vrai que les dernières fois, j'ai vu plutôt 80. Mais on s'en fout un peu, c'est pareil. Migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée se sont fait débarquer de force d'un navire commercial qui les avait secourus. Ce navire commercial se nomme le Nive. Cela faisait 10 jours qu'ils étaient sur le bateau, car ils refusaient d'être reconduit en Libye. L'équipage du bateau avait maintenu leur souhait et s'était pas rendu du coup sur les côtes libyennes. Mais ils se trouvaient quand même de fait au large de la Libye. Et là, les gardes-côtes libyens sont allés les ramener Manu Militari sur la terre ferme pour les amener, on ne sait pas trop, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des blessés durant l'opération et que la totalité d'entre eux finiront dans des centres de détention, puisqu'ils sont accusés tout simplement par les autorités libyennes de piraterie. En toute transparence, comme le fait d'habitude cet État, les autorités libyennes avaient tenu à l'écart les ONG durant les opérations, et en tout cas certaines avaient témoigné le jour même de cette expulsion, bref, je sais pas trop comment nommer ce truc là, avoir vu des véhicules militaires, en tout cas des véhicules avec des hommes en armes comme ça débarquer au niveau des côtes là où il y avait le bateau, et suivi de près par des ambulances. Donc c'est à dire que bref, vous voyez à peu près ce qu'ils avaient prévu, c'était un peu d'y aller de manière hard. MSF a publié un communiqué ce lundi pour faire part de son inquiétude et dénoncer l'attitude complète de l'Europe. Alors tout d'abord, les autorités libyennes ne communiquent absolument pas sur les lieux de détention ni sur l'état de santé des migrants. Ce que c'est Médecins Sans Frontières qui a pu se rendre sur le Nive avant l'opération pour prodiguer les premiers soins des personnes, c'est qu'au moins 20 d'entre eux sont mineurs et que certains souffraient de graves blessures, de graves brûlures, dues pour la plupart à des contacts avec de l'essence. Alors vous voyez, en général, quand un bateau coule, ce qui était leur cas, les réservoirs d'essence débordent et ça fait qu'il y a une nappe d'essence qui est à la surface de l'eau. Et donc voilà, bref, ça brûle. Et plusieurs personnes avaient des séquelles de torture. Donc voilà, ça pour faire un peu un état des gens. MSF rappelle qu'il est illégal de ramener des migrants dans un port libyen, car ce pays ne peut être considéré comme sûr pour ces personnes. Alors on rappelle, c'est un peu un espèce de débat qui a lieu à des moments. En gros, depuis qu'il y a ces histoires de navires, notamment de l'Aquarius pour le plus célèbre, mais il y en a quelques autres un peu moins célèbres, qui se font refuser par l'Italie de débarquer sur le sol italien. Mais en fait, il y a tout un espèce d'enjeu législatif de dire, mais en fait, juste vous avez pas le droit de, enfin, que ce soit Malte ou l'Italie, parce que c'est un peu les deux qui refusent en ce moment. Vous n'avez pas le droit de nous refuser ça. Du coup, il y a le code maritime qui, on le rappelle, si vous êtes en mer dans un bateau, dans un bateau, et ben vous voyez un navire ou une embarcation ou une personne, bref, qui est en danger en mer, vous avez l'obligation pure et simple de la secourir. Un point, c'est tout, sans aucune discrétion du tout. C'est pas comme en voiture, par exemple. En voiture, vous pouvez être en voiture, voir des gens crever au bord de la route, vous pouvez tracer, il y a rien qui vous oblige à vous arrêter. Bref, voilà. Donc là, c'est un peu espèce de code de la mer, et grosso modo on peut dire que l'ambiance dans la mer fait que on a un peu l'impression quand même, avec toutes ces histoires, que bon, qu'on soit je parle pas pour du côté des gardes-côtes ou quoi, mais qu'on soit de gauche ou de droite, en fait, juste quelqu'un qui est dans la merde en mer, et juste on lui file un coup de main, puis quel que soit notre avis sur les migrants, voilà, ça se fait pas de les laisser crever. Et il y a ce truc de dire, ah, vous avez qu'à les ramener en Libye. Alors, ce que fait l'Europe, fait pression là-dessus, machin. Et en fait, MSF et plein d'autres ONG disent, en fait, non, parce que le code, il dit, en fait, on doit les ramener dans un port sûr. Ce que n'est pas du tout la Libye, parce qu'on sait ce que fait la Libye, une fois que les migrants sont ramenés, c'est-à-dire qu'ils sont ramenés dans des centres de détention. On sait que les migrants subissent des tortures, que certains d'entre eux sont vendus comme esclaves. Enfin, voilà, il y a tout un tas de témoignages, de vidéos là-dessus.
Des exploitations, du viol.
C'est ça. Donc ça fait quand même tout un tas de trucs où il y a quand même un lot de raisons objectives de ne pas renvoyer des gens là-bas. Voilà. Donc c'est pour ça que là, la MSF dit, en fait, juste, c'est pas possible. On peut pas ramener les gens là-bas. Et voilà. En tout cas, l'ONG finit son communiqué en accusant clairement l'Europe, et là je cite, cette situation tragique est le résultat d'efforts délibérés et concertés de l'Europe pour empêcher à tout prix les réfugiés, les migrants et les demandeurs d'asile d'atteindre ces rives. Voilà, alors bon, ça fait longtemps que nous et plein d'autres, on dit grosso modo ce truc-là. Quand c'est une ONG qui a le poids de Médecins Sans Frontières qui le dit, ça, c'est cool. Ce qui l'est moins, c'est qu'on se dit qu'en fait, on a l'impression que ça a autant d'écho que quand c'est nous dans ce studio qui le disons. Alors ça, c'est quand même la partie qui fait un peu flipper. Et on continue toujours en Méditerranée et toujours par rapport à la Libye. Vendredi, 12 migrants ont été secourus par des pêcheurs espagnols au large des côtes libyennes. Alors cette fois-ci, l'histoire diffère un tout petit peu des secours habituels. Il ne s'agit pas d'un navire qui aperçoit une embarcation de migrants en détresse, enfin pas simplement. Là, les pêcheurs espagnols voient des gardes-côtes libyens intervenir sur une embarcation avec quelques personnes à bord, puis embarquer ces personnes et laisser toutes les autres qui se sont jetées à l'eau en voyant les gardes-côtes arriver. Donc en laissant 12 migrants à l'eau. Donc c'est à ce moment-là que les pêcheurs espagnols sont allés secourir les personnes restées à l'eau. Bien évidemment, du côté des autorités libyennes, on a une toute autre version. Je les cite. Lorsque les gardes-côtes se sont approchés de l'embarcation de migrants, un énorme bateau est arrivé. Après avoir déclaré son identité, il a été prié de quitter la zone immédiatement, mais il a refusé. Suite à ces actions irresponsables, les migrants ont sauté de leur embarcation et ont nagé jusqu'au chalutier espagnol. Les pêcheurs ont ensuite refusé de les ramener aux gardes-côtes libyens. Alors bon, si on regarde d'un peu plus près ces deux versions, mais bon, juste en ayant entendu comme ça, on prend que celle des gardes-côtes, on se dit, allez, les pêcheurs espagnols, c'est des salauds dans l'histoire, les gardes-côtes, ils ont toujours répondu, on a quand même un peu du mal à voir où est le tort du côté des pêcheurs qui sont allés secourir des personnes qui ont préféré se jeter à l'eau, quitte à crever, plutôt que de finir dans l'enfer libyen, ou alors que ce soit les migrants eux-mêmes qui, voyant leur futur tortionnaire, ont décidé de s'en remettre au sort, en se jetant à l'eau, préférant la mort plutôt que la Libye. Voilà, donc c'est cette tragique histoire montre un peu où on en est à peu près en Méditerranée et où on en est enfin, ce que ça fait en ce moment de traverser la Méditerranée et d'avoir l'enjeu de ne pas être amené en Libye, c'est-à-dire qu'on préfère clairement se jeter à la mer plutôt que de finir dans les géoles libyennes.
Qu'est-ce que vous voulez, fumier ?
On te recherche, c'est tout.
Pourquoi ?
Parce que t'es un fugitif.
Non, c'est faux. Je ne suis plus un scout kaki.
Peu importe. De toute façon, tu n'as pas autorité. Nous avons été mandatés.
Rends-toi à la raison. Voilà, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Pourquoi vous ne nous laissez pas simplement disparaître ?
Des nouvelles de la campagne BDS maintenant, puisque le 19 novembre, l'entreprise Airbnb a retiré de ses offres de location les logements situés dans les colonies de Cisjordanie, je cite, qui sont au cœur du conflit entre Israéliens et Palestiniens. Donc c'est un premier pas dans la bonne direction, qu'Airbnb cesse de profiter du vol par Israël des terres appartenant aux autochtones palestiniens et de leurs ressources naturelles. Airbnb cependant se contredit en ne supprimant pas de ses listes les biens situés dans des colonies israéliennes illégales à Jérusalem-Est occupée, et y compris dans la vieille ville. Toutes les colonies israéliennes dans des territoires palestiniens et syriens constituent des crimes de guerre selon le droit international. Et Jérusalem-Est ne fait pas l'exception. L'industrie israélienne du tourisme utilise les maisons volées à des réfugiés palestiniens, par exemple, comme hôtels, chambres à louer, et restaurants et autres. Là, il y a une réaction à la décision de l'entreprise par le ministre israélien du tourisme Yariv Levin, qui a demandé à son administration de réduire l'activité de l'entreprise Airbnb en Israël même. Donc des conséquences. Cette décision, parmi d'autres, confirme l'importance prise par la campagne boycott des investissements sanctions. Donc depuis sa création il y a 13 ans, de cette campagne, elle s'est attirée des ennemis dans tous les camps. BDS a excédé le gouvernement israélien par ses tentatives d'en faire un pestiféré auprès des libéraux et des progressistes, exaspérant ce qui restait du camp de la paix israélien en incitant les Palestiniennes à passer d'une lutte contre l'occupation à un combat contre l'apartheid. Il a engendré dans les rangs du gouvernement israélien une telle contre-offensive antidémocratique qu'elle suscite parmi les libéraux israéliens les plus vives inquiétudes pour l'avenir de leur pays. Enfin, le mouvement représente un casse-tête pour les donateurs européens qui sont l'objet de pressions de la part d'Israël pour qu'ils ne travaillent pas dans les organisations pro-BDS dans les territoires palestiniens. Requête impossible dans la mesure où la quasi-totalité des grands groupes de la société civile à Gaza et en Cisjordanie est favorable au mouvement. Donc aussi à une époque de responsabilité sociale des entreprises, BDS a fait de la contre-publicité aux grands groupes économiques liés à l'occupation israélienne, Rimax, Hewlett-Packard, etc., et a poussé d'autres entreprises importantes à quitter la Cisjordanie. BDS a perturbé des festivals de cinéma, des concerts et des expositions à travers le monde. Cette campagne a irrité des organisations universitaires et sportives en les politisant, exigeant d'elles qu'elles prennent position sur un conflit qui est source d'intenses divisions. Elle a suscité la colère d'interprètes et d'artistes palestiniens qui travaillent avec des institutions israéliennes en les accusant d'offrir une couverture palestinienne aux violations des droits humains commises par Israël. Et même au Royaume-Uni, cette campagne a perturbé le fonctionnement des tribunaux et des conseils municipaux en les entraînant dans des débats sur la légalité du boycott des produits des colonies. Aux États-Unis, la campagne a poussé une vingtaine d'États à adopter des projets de loi ou à émettre des ordonnances empêchant ou pénalisant ceux qui boycottaient Israël ou ses colonies, dressant des alliés d'Israël contre des défenseurs de la liberté d'expression, tels que American Civil Liberties Union. Voilà, pour par rapport à BDS. L'émergence du mouvement a ravivé de vieilles interrogations sur la légitimité du sionisme, sur les raisons pour lesquelles les juifs auraient des privilèges par rapport aux non-juifs, et sur celles qui autoriseraient les réfugiés d'autres conflits à revenir chez eux, mais pas ceux du conflit israélo-palestinien. Et surtout, il a soulevé la question épineuse qui ne peut pas être indéfiniment négligée, à savoir si Israël, même s'il cesse son occupation de la Cisjordanie et de Gaza, peut être à la fois une démocratie et un État juif. Bon, si vous voulez plus d'éléments sur l'impact de la campagne BDS, il y a un article que j'ai trouvé sur orient21.info, Donc c'est Orient et 21 écrit en lettres romaines XXI.info qui prend le temps de vraiment justement là sur les 13 ans voir tout l'impact que cette campagne a pu avoir tant sur les États du Moyen-Orient que sur la politique israélienne que sur l'impact géopolitique mondial que ça a enclenché. C'est très intéressant. Et pour plus d'infos, vous pouvez aussi vous rendre comme d'habitude sur le site de la campagne BDS. Donc c'est www.bdsfrance.org. Et d'ailleurs, là, il y a une pétition à signer contre le prochain Eurovision. Pour que les radios et télé européennes se retirent du concours de l'Eurovision accueilli par Israël cette année, du moins en 2019, afin qu'ils ne se rendent pas complices des violations par Israël des droits humains des Palestiniens. Et elle demande aux journalistes, artistes, paroliers, interprètes à boycotter donc ce concours accueilli par Israël, tout comme ils ont boycotté en son temps le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Pourquoi ? Eh ben, quelques jours à peine après la victoire en 2018 d'Israël à l'Eurovision, les forces israéliennes ont massacré 62 palestiniennes à Gaza, dont 6 enfants qui manifestaient pour la liberté et pour les droits des réfugiés. Depuis le début des manifestations de la Grande Marche du Retour, donc depuis le 30 mars 2018, au moins 250 Palestiniennes ont été tuées par les forces israéliennes dans la bande de Gaza assiégée. Plus de 18 000 autres ont été blessés et parmi eux, des milliers se sont fait tirer dessus à balles réelles. Et le législateur israélien a récemment formalisé l'apartheid dans les lois fondamentales d'Israël, avec la loi de l'État-nation juif, qui confère un mandat constitutionnel de discrimination raciale contre les Palestiniennes. Et en même temps, par contre, le régime d'apartheid d'Israël s'efforce de présenter un visage plus agréable d'Israël en utilisant l'art pour blanchir des décennies d'oppression et de dépossession des Palestiniens.
Qu'est-ce qu'il avait ?
Oh, c'est un homme qui était pas bien. Il faisait du pressentiment.
Mais depuis quand c'est une maladie, le pressentiment ?
Ma pauvre, c'est comme tout, ça dépend combien vous en avez.
Eh oui, on pressent, et puis un beau jour, on claque.
En tout cas, dans la nuit d'hier, il nous en a fait un si gros que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je cherche le docteur. Mais quand on est arrivé, c'était trop tard, ça l'avait étouffé.
Et donc, c'est sur ces mots que le Canu Info touche à sa fin. Il est 19h56. On vous laisse avec 4 minutes de bande continue.
Avant l'émission Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes.
Et une fois n'est pas coutume, n'hésitez pas vendredi de 17h à 18h à écouter l'émission sur Radio Canu On n'est pas des cadeaux, qui aura pour thème la victimologie.
Eh bien, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.